Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La parole de Dieu apporte une véritable espérance dans notre monde tourmenté. C'est pourquoi nous vous exhortons à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui seul a le pouvoir de combler les cœurs.
Aujourd'hui, Yann et notre invité Alain continuent leur discussion sur le livre de Job.
Nous continuons nos méditations sur le thème de la souffrance en nous appuyant sur le livre biblique de Job. Job a crié sa douleur et il a fait connaître ses doutes. Cependant, il a tout de même mis son espérance en l'Éternel. Car il était convaincu que s'il devait recevoir des réponses à ses interrogations et une consolation à ses peines, celle-ci viendrait de Dieu et non d'ailleurs. Toutefois, l'une des choses qui a consterné Job est le fait que Dieu soit resté silencieux. Cependant, la dernière fois, nous avons appris que Dieu lui-même a brisé ce silence. Et nous avons échangé quelques réflexions sur la première partie du discours qu'il a tenu à Job.
C'est exact. Souvenons-nous que Dieu n'a pas expliqué à Job exactement pourquoi il a tant souffert, mais il lui a montré dans un premier temps que certains mystères demeurent insaisissables pour l'homme, dont l'intelligence, comparée à celle de Dieu, reste bien limitée. Par là même, Dieu a sous-entendu que les amis de Job suivaient des raisonnements erronés, et ainsi, il a confirmé que Job avait raison dans ce débat, et que reconnaître son incompréhension quant au mystère de la souffrance de l'innocent est préférable aux réponses accusatrices toutes faites ou trop simplistes qui nient la véritable complexité du monde dans lequel nous vivons.
Mais Alain, la dernière fois, nous n'avons étudié que la première partie du discours de Dieu. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la deuxième, dans laquelle nous découvrons deux animaux, le Béhémoth et le Léviathan, décrits de façon très poétique. Mais ces créatures semblent un peu cauchemardesques. Ce discours dépeint-il des monstres ou de véritables animaux?
Écoutons d'abord la lecture de quelques versets qui nous présentent ces deux créatures, dans le livre de Job, au chapitre 40 et 41.
Voici le Béhémoth. Sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Il se couche sur les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez?
Et maintenant, voici quelques versets qui nous décrivent le Léviathan.
Prendras-tu le Léviathan avec l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec mépris tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux.
Certains pensent qu'il s'agit là d'une description d'animaux sauvages. Selon eux, le Béhémoth serait l'hippopotame et le Léviathan le crocodile. D'autres, dont je partage la pensée, découvrent à travers le langage employé pour décrire ces animaux une signification plus profonde. Ils affirment que ces créatures représentent aussi des réalités spirituelles présentes dans l'univers. Selon eux, le Béhémoth représente la mort et le Léviathan, Satan ou les puissances spirituelles maléfiques. L'hippopotame et le crocodile vivent la plupart du temps dans l'eau. Et il faut savoir qu'à l'époque de Job, les eaux représentaient souvent tout ce qui était obscur, ténébreux, angoissant et effrayant. Nous pouvons donc comprendre que la mort et Satan étaient comparés à ce monde-là.
Quel est le rapport entre ces choses et ce que Dieu a dit auparavant sur le monde naturel?
Souvenons-nous que Dieu veut prouver à Job qu'il ne peut contrôler l'univers. Pour cela, Dieu a passé en revue tout ce qui constitue le monde naturel pour faire comprendre à Job qu'il ne peut ni le comprendre entièrement, ni le maîtriser totalement. À présent, dans la deuxième partie de son discours, Dieu dit que si cela est vrai pour le monde naturel, c'est d'autant plus vrai pour le monde spirituel. Job ne pourra jamais ni comprendre ni maîtriser la mort. Il ne pourra non plus ni comprendre ni contrôler le monde des puissances maléfiques.
À quoi cela sert-il d'expliquer cela à quelqu'un qui souffre? Et en quoi ces paroles peuvent-elles lui apporter un réconfort?
Ces paroles rappellent que depuis la chute de l'homme, suite à sa désobéissance, le monde n'est plus parfait. Au contraire, une malédiction pèse sur toute la création, celle de la mort, et avec elle, une bien triste réalité. Les puissances maléfiques, c'est-à-dire les esprits mauvais, existent, et ils peuvent influencer le cours de notre vie. Ensuite, Dieu nous enseigne l'humilité. Les hommes cherchent à enrayer le mal de la planète et à repousser le jour de la mort. Certainement, nous devons encourager tout effort mené contre la violence, l'injustice, la corruption et bien d'autres encore. Nous devons encourager également toute recherche scientifique qui vise à guérir les maladies, à améliorer la santé et la qualité de nos vies. Soyons toutefois lucides et réalistes. Nous allons tous mourir un jour, et le mal pèse sur nos vies malgré toutes nos tentatives pour le combattre. Nous devons donc admettre nos limites.
En quoi cette réponse de Dieu a-t-elle pu satisfaire Job ?
Job s'est montré prétentieux dans les propos qu'il a tenus devant l'Éternel. Cependant, après l'intervention de Dieu, il reconnaît qu'il a eu tort. Il avoue qu'il ne peut tout comprendre. Et à travers ce que Dieu dit, Job discerne un espoir.
Pouvez-vous nous dire lequel ?
Dieu déclare à Job qu'il ne pourra jamais gouverner l'univers avec justice. C'est aussi une façon d'affirmer que lui, l'Éternel, exercera sa justice même sur le monde ténébreux de la mort et du mal. Dieu dit que Job ne pourra jamais ni dompter, ni tuer le Béhémoth et le Léviathan. Mais c'est aussi une façon d'affirmer que lui, l'Éternel, le pourra et un jour le fera. Autrement dit, Dieu vaincra ces deux monstres, la mort et Satan, ses ennemis de l'humanité. Nous pouvons avoir quelquefois le sentiment d'être abattu par la souffrance, totalement anéanti par elle. Toutefois, Dieu nous rappelle que ces créatures, telles que le Léviathan et le Béhémoth, sont devant lui comme de toutes petites créatures, car c'est lui, l'Éternel, qui demeure le Tout-Puissant. La souffrance nous rappelle notre fragilité et notre impuissance, mais nous pouvons, tout comme Job, retrouver par la foi en l'Éternel, le Tout-Puissant, une certaine sérénité. Par la foi, tout comme Job, nous pouvons avoir l'assurance et l'espérance que l'Éternel combattra le mal, le péché, les puissances maléfiques et la mort, et qu'à l'issue de ce combat, l'Éternel remportera la victoire. Dieu est donc digne de confiance.
Mais comment et quand Dieu remportera-t-il cette victoire sur le mal? L'attente semble longue, surtout pour ceux qui souffrent.
À travers le prophète Ésaïe, le Seigneur a parlé. Il a déclaré « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Il voulait montrer par là que sa façon de lutter contre le mal ne correspond pas forcément à ce que nous attendons de lui. Nous devons toutefois lui faire confiance, sachant que lui connaît toutes choses mieux que nous. Mais comment Dieu remportera-t-il la victoire? J'en dirai plus la prochaine fois, quand nous considérerons le livre de Job à la lumière de la venue et de l'œuvre de Jésus-Christ. Il suffit de dire maintenant que Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu nos trois ennemis principaux, le péché, Satan et la mort. Cette victoire accomplie sur la croix sera pleinement manifestée lors de son prochain retour.
À présent, Jean-Yves va poursuivre ses méditations bibliques portant sur la parabole de la brebis perdue, selon l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 4 à 7, qu'Hélène va nous lire.
Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Et quand il a trouvé, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. »
Le berger a saisi la brebis perdue, l'a placée sur ses épaules, puis l'a ramenée chez lui. Nous découvrons là une image fort rassurante de l'amour de Dieu pour le croyant. Le Seigneur, parce qu'il est notre berger, fera tout pour nous amener, sains et saufs, jusqu'à notre demeure éternelle. Cette brebis perdue, elle a probablement manqué d'eau et de nourriture, alors que le soleil ardent frappait inlassablement les lieux déserts. Elle a dû sombrer dans l'angoisse, ressentir une grande détresse. Perdue, affaiblie par cette expérience, aurait-elle eu la force, une fois retrouvée par son berger, de marcher jusqu'à l'enclos ? Cette question ne s'est pas posée, car son berger, plein de compassion et de tendresse, l'a prise sur ses épaules. Il l'a lui-même portée. Existe-t-il des bergers qui, à force de coups, auraient obligé une brebis à avancer ? Ce n'est pas le cas du berger de la parabole, car ce berger se soucie avant tout du bien-être et de la santé de sa brebis. Quelle leçon spirituelle pouvons-nous en tirer ? Jésus est notre sauveur, non seulement en ce qu'il est intervenu un jour dans notre vie pour nous libérer du péché, de Satan et de la mort, mais parce qu'il agit aussi chaque jour en nous pour nous conduire à la vie éternelle, nous portant quand cela est nécessaire. Ces pensées me rappellent un poème bien connu dans le monde chrétien qui dépeint un croyant s'entretenant avec le Seigneur. Et alors qu'il le fait, il voit son passé représenté par des traces sur le sable. Il remarque alors les traces de deux personnes marchant côte à côte. Il s'agit là du Seigneur Jésus l'accompagnant. Toutefois, ce croyant s'aperçoit que par endroits, seules les traces d'une personne apparaissent. Or, ces passages correspondent aux moments les plus difficiles de sa vie. Il en déduit que Jésus l'a probablement abandonné durant ces temps d'épreuve. Mais Jésus lui répond, il affirme que non, au contraire, c'est quand il était faible qu'il l'a porté. Le chemin conduisant à la vie éternelle semble souvent redoutable, parsemé d'obstacles et de périls. Parfois, nous pouvons avoir le sentiment de ne pas savoir comment nous allons tout surmonter et persévérer. Or, cette parabole nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Grâce à lui, nous connaîtrons un jour la résurrection et la vie éternelle. La vie peut être difficile, mais soyons rassurés. Jésus est notre berger, bienveillant. Il comprend nos difficultés et nos faiblesses. Il sait quand notre foi est chancelante. Comme le dit l'apôtre Paul, sa grâce est suffisante, car Jésus saura nous amener à notre demeure éternelle.
Bien des difficultés peuvent se dresser devant nous. Elles peuvent sembler insurmontables ou effrayantes, à l'image des monstres décrits dans le livre de Job. À cause des épreuves de la vie, nous pouvons nous sentir épouvantés ou affaiblis. Toutefois, le livre de Job, comme la parabole de la brebis perdue, nous assure que la victoire finale appartient à Dieu.
Car tous ceux qui placent leur confiance en Jésus bénéficieront pleinement de la victoire qu'il promet aux siens. Jésus conduit ses enfants. Il les protégera jusqu'à dans son royaume éternel.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
À bientôt et que Dieu vous bénisse.